bande des copains, l'émission des années 60.
Salut les copains
sur RVE.
Vous les copains, je ne vous oublierai jamais.
Dans l'esprit de guerre, donne-moi la main.
Ouais.
One. RVE, il est 10h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous, ça y est, c'est parti pour les municipales. Des millions de Français sont attendus aux urnes aujourd'hui, mais combien vont se déplacer? Eh bien, c'est une très bonne question. On en saura plus en fin de journée, puisque c'est dans un contexte assez particulier que le gouvernement a décidé de maintenir ce vote. La France est passée au stade 3 de l'épidémie de coronavirus. Désormais, le virus circule sur tout le territoire. Et c'est en Nouvelle-Calédonie que le coup d'envoi des élections a été donné, il y a déjà plusieurs heures maintenant. Pour le moment, l'île est épargnée par ce coronavirus. Mais chez nous, dans l'Hexagone, si vous êtes prêts à aller voter, pensez à bien faire attention. Des masques seront disponibles dans certaines mairies pour les personnes présentant des symptômes. Laissez un mètre au minimum entre vous et les autres. Privilégiez des horaires un peu moins fréquentés comme entre 9h et 11h, 13h et 15h. Pensez aussi à prendre un stylo. Des solutions hydroalcooliques seront présentes sur place. Et puis les personnes âgées, sachez que vous aurez la priorité pour passer dans les urnes. Et puis depuis minuit, la France est passée en mode ralenti. Les bars, restaurants, les salles de sport, les cinémas ou encore tout autre commerce non alimentaire ont fermé. Une mesure annoncée hier par le Premier ministre Édouard Philippe pour endiguer la propagation du coronavirus. Les transports en commun sont pour le moment maintenus, mais les autorités recommandent quand même de les éviter si possible. Hier, le virus touchait 4500 personnes en France et 91 en sont déjà décédées. En Espagne, hier, le gouvernement a demandé la limitation des trajets, selon entre le domicile et le travail, et pour faire les courses. Israël a annoncé à son tour fermer les commerces non indispensables. Le Burkina Faso a fermé ses écoles. Monaco a fermé depuis minuit ses commerces non alimentaires, comme en France. Et puis, Donald Trump a été testé négatif au coronavirus. Le test avait été réalisé alors que plusieurs de ses proches avaient été contaminés. En sport, une sortie victorieuse pour Martin Fourcade. Le biathlète tricolore a remporté la dernière course de sa carrière. C'était à la poursuite hier en Finlande et c'est Johannes Bö qui rafle le gros globe de cristal pour la seconde fois.
Avant de retrouver le sport dans quelques instants, voici la météo du jour. Un ciel qui sera dominant de soleil avec quelques passages nuageux. Les températures cet après-midi devraient s'établir aux alentours de 13 à 14 degrés.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport. Avec Philippe Carnu.
Ben effectivement, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On a donc, on est revenu à notre horaire classique, 10h-11h, après l'émission de la semaine dernière, émission exceptionnelle, 9h-11h, où on avait fêté nos 32 ans d'antenne. On y reviendra, hein, puisqu'on vous avait fait vivre en fil rouge le semi-marathon de Rambouillet. On fera aussi un petit peu le point sur ce qui aurait dû être le bilan du tournoi Destination. Malheureusement, le tournoi ne s'achèvera que fin octobre, début novembre. On aura notre ami Christian Rieux au téléphone tout à l'heure vers 10h30. Et puis naturellement, on reçoit ce matin, dans un contexte un peu particulier, notre ami Olivier Bourdin. Olivier, bonjour.
D'abord, bonjour à tous.
Comment ça va?
Ça va très bien, ça va. Bon. Dans le contexte actuel,
oui. C'est un contexte qui nous pourrit tous dans la vie de tous les jours, y compris dans le domaine du sport, qui est très largement perturbé.
Très largement perturbé, puisque toutes nos organisations, manifestations sont annulées. Hein, ils sont suspendus jusqu'à nouvel ordre, on ne sait pas jusqu'à quelle date. C'est un peu ça qui est un peu le mystère. Donc ça va être compliqué de suivre et de se relancer aussi derrière. Faudra y penser, la relance derrière va être assez compliquée. Niveau motivation, niveau finance, ça va être très 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 compliqué.
Oui, alors naturellement, la santé prioritaire, un pays qui est en état pratiquement de sommeil, hein, pire que des attentats, c'est quand même assez incroyable, quoi. On s'y attendait pas, hein, on a tous...
Ça nous est tombé dessus sur tout le monde, hein, que ce soit le gouvernement, que ce soit les associations, que ce soit les métiers, hein, que le professionnel, tout ça, tout le monde l'a pris de plein fouet. On va se redresser, hein, les Français, ils savent toujours quand on est, l'emblème, un seul coq, hein, on va pas dire, mais dans le rugby, on disait toujours, hein, le coq, c'est celui qui est sur le tas de fumée, c'est lui qui s'en sort toujours, quand ça va mal, et bien on s'en sortira, ça va être compliqué, mais on va s'en sortir. Une très grande motivation collectif en France, donc on s'en sortira.
Alors, toutes les manifestations sur le plan local sont annulées, hein, on parle en matière de sport. Sur le plan international, l'Euro, ça va être annoncé cette semaine, va être reporté à l'été 2021. Les Jeux Olympiques pourraient être décalés dans l'année, hein, probablement, donc au mois d'octobre. Et les épreuves de vélo, hein, certaines ont été annulées, n'auront probablement pas lieu, comme Milan-San Remo, comme Gand-Wevelgem, et on dit que Paris-Roubaix et le Tour de France seraient très sérieusement menacés.
Oui, c'est toutes les manifestations au global, hein, dans tous les pays. En Europe, on a attaqué la saison européenne depuis 10 jours, ils sont très infectés. Déjà les Italiens en France, et puis les classiques belges aussi, ils sont suspendus. Mais bon, il y a forte chance malheureusement que les premières soient un peu annulées, parce que retrouver des créneaux dans le calendrier, ça va être très 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 compliqué, déjà un calendrier est compliqué à faire.
Une course ou deux encore, ça peut le faire, mais
un Tour d'Italie, un calendrier, ça se fait un an et demi à l'avance pour trouver les créneaux, les partenaires, les disponibilités des régions. Tout ça, donc voilà, ça va être très 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 compliqué de retrouver des dates, surtout sur le nombre d'organisations à reclasser.
Alors, la semaine dernière, dans une émission de 2 heures, on avait reçu la section Aïkido de Rambouillet qui devait organiser aujourd'hui un stage entre 9h et 13h au gymnase de Vivonne, stage annulé. On a reçu l'association Sport Even 78 qui devait organiser au Vélodrome de Saint-Quentin le match de volley Paris contre Tours, match aussi annulé. Et puis d'autres manifestations qui arrivaient dans les prochaines semaines, n'auront pas lieu. C'est le cas aussi de la section boxe française qui devait faire une réunion au mois de fin mars au gymnase du Vieux Moulin, c'est annulé. Il y avait le trail des Yvelines aussi qui est annulé, et puis aussi la journée porte ouverte chez nos amis du tennis club du Rambouillet. Vous, comment vous gérez ça, parce que vous avez commencé la saison, vous, Olivier, en matière
On a commencé la saison, les gars, on commençait la saison sur route, hein, ce week-end les courses sont tous annulées. Nous, notre organisation hors fin est annulée, hein, fin mars, le 29 mars, c'est déjà officiel, c'est annulé.
Et voilà, ça tombe le même week-end que toutes les manifestations.
Voilà, le 29 mars, c'est annulé. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas jusqu'à quand ce mot d'ordre est donné. Parce que nous, après, la prochaine organisation, c'est au mois de mai. Bon, au mois de mai, on se dit c'est loin, mais après les interrogations qu'on peut avoir, ça peut être aussi, malheureusement, beaucoup de gens pensent que ça veut, gérer toute manifestation peut être annulée jusqu'à pratiquement début juin. Donc c'est un peu le comptant le dos. Voilà, c'est les bruits qui courent dans les fédérations que malheureusement tout ne pourra reprendre que probablement que début juin. Donc voilà.
Alors apparemment, avant l'intervention du président de la République, ça devait être bloqué jusqu'au 15 avril. C'est ce que nous avait dit François Le Marchand, parce que on a eu quand même la chance de pouvoir suivre le Paris-Nice durant cette semaine, notamment d'être en direct dans l'étape entre Chevreuse et Chalet-sur-Loing lundi. Et ce jour-là, des directives du ministre de la Jeunesse et des Sports, Roxana Maracineanu, sont tombées. On va écouter ce que nous disait François Le Marchand, le directeur de course, ce jour-là, puisque Christian Prudhomme était aux obsèques de Nicolas Portal. Écoutez, il y en avait à peu près jusqu'au 15 avril. Il voulait encore sembler être optimiste pour le Paris-Roubaix, mais depuis, la donne a changé. François Le Marchand. Allez. Je suis avec François Le Marchand, donc le directeur de Paris-Nice. François, on a vécu une drôle d'étape aujourd'hui avec donc ces mesures gouvernementales.
Une drôle d'étape, oui. Alors après, heureusement, on a eu une belle étape sportive. Oui. Heureusement pour rattraper. Mais oui, une drôle d'étape parce que c'est pas du tout dans nos gènes, dans nos codes de notre milieu cycliste. Ce qu'il faut, c'est que c'est un sport gratuit. Les gens ne payent pas. Ils vont derrière les barrières pour voir les spectateurs. Ils vont même près des coureurs pour les toucher éventuellement. Donc on oublie ça. On a tout oublié. Et puis on repart sur des bases. On entend parler souvent de matchs de football à huis clos. Voilà, on va parler de vélo à huis clos, de course cycliste à huis clos. On n'a pas l'habitude, mais il faut s'y faire, ce sont les consignes des autorités.
Oui, et puis il a fallu agir très vite. Hein.
Très vite, oui. Dès ce matin, alors les collectivités l'ont parfaitement compris. On a appelé les maires pour les informer de cela. Alors c'est vrai qu'il y a des animations parfois qui ont été créées autour de l'événement, elles ont été aussi supprimées. Encore une fois, on n'est pas habitué à ça, mais si on veut sauver, si on veut que Paris-Nice aille à son terme, mais il faut respecter les consignes. Et pour l'instant, on s'adapte. Et puis le principal, c'est que les coureurs s'expriment sur le vélo et ils l'ont fait fortement aujourd'hui.
Et les spectateurs, comment ont-ils réagi? Certaines déceptions, je suppose.
Bah, vous allez les interroger, les spectateurs, parce que moi je suis descendu de la voiture, je ne les ai pas vus. Mais je pense qu'ils comprendront bien.
Ouais. En tout cas, on a vu une très belle course, au moins.
Ah ben oui, une très belle course avec le vent qui a joué encore son rôle déterminant des changements de situation, des leaders qu'on croyait être leaders et qui ont crevé au mauvais moment ou victimes de chute au mauvais moment. Donc ça bouleverse un petit peu le classement et c'est tant mieux parce que ça nous rappelle qu'une course de vélo, ben, ça permet d'oublier tout un tas de choses, enfin, pour ceux qui suivent l'actualité. Et ça, c'est parfait pour nous, quoi.
Vous avez une date en tout cas pour donc ces contraintes obligées, c'est-à-dire même Paris-Roubaix pour être perturbé?
J'ai cru lire aujourd'hui que c'était jusqu'au 15 avril, mais bon, non, après, j'ai rien d'officiel.
D'accord. Merci François.
Voilà.
Merci. Voilà pour la position de France, le marchand, mais je pense que ça a changé depuis, ça a donc évolué.
Bah, ça a évolué, et puis en plus, j'irai, le redémarrage ne se fera pas dans des conditions comme on a connu, c'est-à-dire qu'il va y avoir des restrictions, il va y avoir plein de choses autour, donc voilà, ça peut. La date de redémarrage, on ne sait pas. Et dans quelles conditions? Donc ça va aussi pénaliser certaines organisations, parce qu'il fera mettre des choses autour qu'on ne pourra pas assumer. Donc voilà, donc il y aura un redémarrage déjà tout doucement, et quelle date, on ne sait pas.
Bon, Paris-Nice, on l'a quand même suivi, ça s'est terminé hier, un tout petit peu plus tôt que prévu, comme le salon de l'agriculture. Hein. On a fait l'impasse sur la dernière journée. Schachmann qui gagne, l'Allemand, c'est une surprise?
C'est une surprise, mais c'est un très bon coéquipier, hein, depuis pas mal d'années. Il était au bon moment, au bon endroit. C'est voilà, et puis les circonstances du Paris-Nice ont fait que voilà, on a eu moins de leaders, moins d'équipes, donc c'était plus difficile à contrôler la course. Et puis bon, on a aussi bon, malheureusement, du côté sportif, de très très belles étapes, hein, les trois premières avec du vent. Voilà, des étapes de baroudeur. Fallait gérer là les chutes, les crevaisons ont fait aussi que le Paris-Nice a été bouleversé. Mais voilà, ça fait partie de la course, ceci. Donc, avec des équipes un peu moins d'équipes, donc plus difficiles à contrôler. Donc voilà, ils se sont tirés, vraiment, les baroudeurs ont réussi, ceux qui étaient présents à la première étape, on les voit sur la fin, avec l'avance qu'ils ont eue. Puis bon, il a quand même confirmé son contre-la-montre, Chapman. Donc, voilà. Donc, il était présent physiquement et les circonstances ont fait qu'il a été au bout. Mais bon, il mérite, hein, parce que.
Oui. Il n'aurait pas présent. Changé grand chose aujourd'hui.
Non, ça n'aurait pas changé grand chose, ouais. Parce qu'il était présent sur les étapes, ouais. Hein, que ce soit contre la montre, même dans les montées. Il était à la limite dans les montées, puisqu'il n'y avait pas non plus d'équipe pour l'encadrer vraiment sur la fin. Mais voilà, il était présent, il mérite de gagner son Paris-Nice.
Oui, on ne le connaissait pas, mais c'est vrai qu'il a été leader de bout en bout, et c'est vrai que depuis quelques années, on est gâté sur les routes du Paris-Nice, Olivier, parce que on voit des super belles premières étapes. Hein. Ça a été le cas, on se rappelle, il y a 3 ans, où Arnaud Démare avait été donc contraint à l'abandon, il avait été déclassé suite à une chute. L'année d'après, il vient gagner à Meudon, hein, sur nos yeux, et là, belle étape également la semaine dernière, à plaisir, entre plaisir et plaisir.
Oui, mais on a la chance aussi, ouais. C'est pour dire, pour valoriser, c'est qu'on a un super terrain de course, mmh. Hein, dans les Yvelines, avec j'irais un relief des plaines, et puis ben voilà, et puis ASO depuis quelques années, maintenant ils ont profité, ils ont acquis ce terrain, et on peut faire de beaux parcours. Après, c'est les coureurs qui font la course, mais voilà, ils en profitent. Les bordures, revenir à l'ancien, j'irais, ça casse un peu le phénomène des courses actuelles, qu'on a des grandes équipes qui maîtrisent le peloton, et puis voilà, avec les bordures, c'est beau à voir. Une animation, et c'est vrai que le terrain, bon, on a la chance, on a le terrain de Sud-Yvelines qui est magnifique pour ces courses.
Et même lundi, l'étape a été belle. Des fois, les deuxièmes étapes, bon, c'est des étapes classiques qui finissent au sprint. Là, ça s'est fini par petit paquet. Il y a eu beaucoup de cassures, beaucoup de casses aussi, puisque donc il y a eu la chute de Quintana, la crevaison d'Alaphilippe. Donc, belle deuxième étape qu'on a eu l'occasion de commenter entre Chevreuse et puis Chalet de Serloin.
Oui, ben le vent, hein, le vent, ça fait partie de la course cycliste. Hein, je dirais, c'est une particularité des courses hors stade sur le terrain. Donc, on a des plus dépendants de gérer des conditions climatiques, et puis dans le vélo encore plus avec le vent, la pluie, des conditions qu'on a actuellement au niveau météorologique qui sont assez exceptionnelles, hein, depuis quelques années. On a ça, quoi, par rapport aux années, on a cet hiver qui est vraiment venteux, des tempêtes sur tempêtes. Donc, ben, le sport cycliste en subit encore plus avec les bordures. Hein. On a revu les belles bordures d'époque qu'on avait commencé un peu à oublier, mais on les revoit au niveau, et c'est magnifique.
5 paquets sont arrivés. Hein,
voilà, 5 paquets, on voyait, c'était, et puis des paquets quand les gens n'ont pas l'habitude, on les voit à 200 mètres, on dit, ouais. Bon, ça va rentrer. Ben non, 200 mètres, ça va dans une bordure, dès qu'on perd 50 cm, c'est foutu, hein, c'est le cas de dire. on prend autant de vent que celui qui est devant, donc il n'y a plus d'abri, donc voilà, on subit. Et 200 mètres, c'est encore plus, c'est très 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 compliqué à combler.
Comme l'étape entre Bois d'Arcy et Bois d'Arcy il y a 3 ans, c'était 5 petits paquets aussi.
C'est ça, et puis avec le profil en plus, un petit profil un peu, bon, pas des côtes, des cols, mais voilà, des petits raidards, des petites relances, des routes non plus, pas non plus des boulevards, donc des petites routes, donc qui permettent de gérer cette animation.
Alors, on va donner les vainqueurs d'étape. Hein, donc, Schachmann, l'allemand, je pense que je le prononce bien, qui a gagné donc l'étape entre Plaisir et Plaisir, 154 km. Entre Chevreuse et Chalais-sur-Loing, on vous l'avait commenté lundi, c'est Giacomo Nizzolo, l'italien qui s'est imposé de la NTT Pro. Entre Chalais-sur-Loing et La Châtre, 212 km 500, eh bien, c'est Ivan Garcia Cortina du Bahreïn qui s'est imposé au sprint. Entre le contre-la-montre de 15 km, Saint-Amand-Montrond, eh bien, c'est Craig Andersen qui l'emporte de l'équipe Sunweb. Entre Ghana et Côte-Saint-André, donc le lendemain, le jeudi, 227 km, c'est Nicolo Bonifazio de la Direct Energy qui s'impose. Et puis, on a commencé à être dans les parcours un peu vallonnés. Entre Sorgab, 161 km 500, victoire de Tige Benot de l'équipe Sunweb. Mais ça n'a pas été suffisant pour détrôner donc Schachmann, le futur vainqueur. Et hier, entre Nice et donc Valdemort-Lacomiane, 168 km 500, c'est Quintana qui s'impose, Nairo Quintana donc qui l'emporte. Alors le classement final, Olivier, on voit quand même qu'il y a du beau monde, hein, même si des coureurs, beaucoup de coureurs ont été contraints à renoncer. Donc Schachmann de l'équipe Bora, l'allemand, s'impose avec 18 secondes sur Benot de la Sunweb. Le troisième, c'est Iguital, colombien, à 59 secondes. Le quatrième, c'est Nibali Trek Segafredo à 1,16. Et le cinquième, c'est Thibaut Pinot, 1,26. Donc, vous voyez, les Français sont là. À noter aussi que Rudy Mollard termine septième à 2,03. Et Julian Alaphilippe, 16e à 11 minutes. Les Français sont là, hein.
Les Français sont là parce que Bardet, il fait 19e.
Oui, voilà.
On a Gilbert qui est dans les 20 premiers aussi. Ouais. De Gaincol qui est là, le GAC,
Un bon Stiva. Plateau, hein.
Oui, voilà, cette année, le Paris-Nice, bon, avec les annulations de Tirreno et d'Antico, ils ont récupéré quelques grosses équipes, hein, comme Peter Sagan, ce sont des coureurs qui devaient aller sur Tirreno et d'Antico, ils sont revenus sur Paris-Nice. Donc, c'est bon, malheureux que, bon, la dernière étape a été, les circonstances ont fait, mais ça, et puis, bon, les étapes venteuses et les trois premières étapes ont fait une belle course, et puis avec des bons coureurs aussi, bon, des équipes ont renoncé dès le début, pour différentes raisons, d'autres.
Bon, Bernal n'était pas là, mais c'était parce qu'il était aux obsèques de Portal.
C'est compréhensible, c'est fortement compréhensible, ça se comprend largement. Maintenant, les autres, après, on peut avoir des doutes sur certaines décisions d'autres équipes. Mais bon, je pense qu'ASO l'a bien noté sur certaines prochaines organisations, d'ailleurs. Mais quitte à inviter, on préfère inviter des équipes qui ont fait les efforts que des équipes qui ont pris des précautions vraiment qui n'étaient pas à prendre encore à ce moment-là. Donc voilà. Mais oui, de très très bons coureurs au départ, des formes aussi, puis malheureusement, ils ne savaient pas l'avenir, mais il y aurait l'une des dernières courses à avoir une grande coupure qui va arriver. Donc ça va être très compliqué pour les organismes de se relancer. Hein. On avait déjà commencé à avoir des équipes qui étaient bloquées à Bahreïn.
Oui, ah oui, qui ont été confinés. Alors, il fallait un sacré moral, hein,
voilà,
pour rester dans les chambres.
Complètement bloqué, et là, donc là, ça va être faire moins un mois, voire deux mois pratiquement de grandes courses en moins. Ça sera plus grand qu'une interruption hivernale, hein, comme il faut penser, hein, parce que les équipes qui finissaient de courir au mois de novembre, qui ont recouru fin janvier dans certains pays, là, on va avoir une coupure encore plus grande. Ça va être assez compliqué de relancer les courses, et les courses qui ira à partir de mois de juin, ça va être des courses pleines, et là, il va falloir tout de suite. On aurait des contrats aussi. Hein. Là, il y a certains qui vont jouer leur contrat. Ils n'auront que 4-5 mois pour renouveler leur contrat pour l'année d'après. Donc là, le côté positif, c'est qu'on risque d'avoir des courses assez animées.
En tout cas, il va falloir gérer tout ça, tout le monde du sport, hein, tout sport confondu, que ce soit le rugby, le foot, le tennis, le cyclisme, tout sport confondu, donc va devoir gérer ça. Et puis aussi au niveau du sport amateur, hein, on a parlé des très nombreuses annulations de ces prochaines semaines, il va aussi falloir gérer ça, Olivier.
Gérer ça va être compliqué. Bon, après, je veux pas dire que malheureusement nous on est encore un peu plus impacté, tout ce qui est coordination hors stade, puisque nous on dépend aussi du dossier qu'on dépose à la sous-préfecture 2 mois à l'avance minimum, donc ce sont des grosses organisations il nous faut beaucoup d'autorisations, beaucoup de contraintes. Hein. Donc bon, le semi-marathon, il est passé à travers.
J'en ai fallu de 24 heures. Hein. Voilà, on est ravis pour Hervé Joly.
Voilà, Hervé, mais... je suis content pour lui parce que ouais, c'est un investissement énorme.
Ouais.
Autant niveau bénévole, niveau financement aussi, c'est énorme de qui investit. Et niveau travail, hein, le semi-marathon, c'est des choses qu'on, ben là, il commence déjà peut-être à retravailler sur celui de l'année prochaine.
Oui, qui va avoir un petit changement. Il y aura plus, on passera plus dans le parc du château, mais on repassera en centre-ville. Et en vrai, qu'on a eu cette semaine, nous l'a confirmé.
Voilà. Donc, voilà, ce sont des contraintes, mais voilà, ce sont toutes ces contraintes hors stade. Dans le stade, ils ont leurs difficultés, mais nous, on a une contrainte encore supérieure, c'est hors stade, donc, des dossiers qui sont sous préfecture. Pour l'utilisation des voies publiques, c'est très 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 compliqué. Donc relancer, ce que je disais tout à l'heure, relancer les organisations quand on change les dates, c'est pas si facile que ça, parce qu'il y a des dossiers d'autorisation des mairies, des communes, des départements, tout ça, ça va être assez compliqué. Donc à gérer, c'est des travaux qui sont faits, 6 mois de travail qui tombent à l'eau. Gérer un stade, c'est peut-être un peu plus facile. Bon, après, rentrer dans le calendrier, c'est compliqué, mais il faut rentrer dans le calendrier. Et voilà, c'est gérer une fois que le stade est là, et voilà, il n'y a pas de contrainte autre que l'organisation et du calendrier. Voilà. Mais ça va être assez lourd à relancer.
Ouais, alors, par exemple, pour le foot, le fait de reporter l'Euro, ça va permettre de finir les saisons classiques de Ligue 1, de Ligue des Champions, quitte à aller jusqu'au début juillet, quoi.
Oui, ben après, je dirais, eux, ils ont une manne financière qui est moins gênante, qui ça perturbera moins, à part leurs égos. ils sont moindres.
On honorer les droits télé, comme ça, c'est comme pour le rugby, quoi, c'est pareil.
Oui, mais bon, ça diminuera un peu leur salaire, ça sera pas un mal. Mais bon, c'est, eux, ils ont moins de contraintes, c'est plus facile de leur engager quand on a de l'argent derrière qu'on peut lancer. Puis bon, ça fait quand même des contraintes, parce que l'Euro en 2021, vu qu'on avait prévu la Coupe du Monde au Qatar l'année d'après, donc il fallait déjà décaler le calendrier. Ça va être bon, c'est des choses qui sont un peu compliquées, mais ce sont des problèmes de calendrier. Mmh. Voilà. Mais c'est des contraintes qu'ils ont eux que d'autres ont, mais qui seront plus compliquées. Par exemple, un Paris-Roubaix, on peut pas faire un Paris-Roubaix au mois de septembre.
Bah oui.
Voilà,
on peut pas faire un Tour d'Italie au mois de novembre-décembre.
Voilà, il y a tellement d'autorisations. Un Tour
c'est
de
pour
France,
ça que ça n'aura pas lieu. Quoi.
Un Tour de France, ça se fait 3 ans à l'avance. Certaines étapes sont prévues 3 ans à l'avance à des étapes de départ. Donc on peut pas chambouler des calendriers comme ça, des droits d'autorisation de passage. Des circonstances de route, hein, des routes qui sont faites à ce moment-là et où sont ouvertes, et on reporte des travaux sur les routes parce qu'on a une grosse organisation qui va passer, là on pourra pas reporter. Donc voilà, il y a des choses qui seront pas possibles de faire. Hein. Et puis le calendrier, il y a des dimanches, il n'y en a qu'un par semaine, hein, des week-ends un par semaine, donc ça va être assez compliqué.
Alors justement, vous parliez du semi-marathon de Rambouillet, on l'a vécu en fil rouge hein, la semaine dernière avec un coureur, chez les coureurs, Arnaud Krantz. Donc c'est Benson Waruguru qui s'est imposé, comme nous l'avait dit Arnaud, en 1h09min28s. Il gagne devant Mustapha Azaraï du Stade Français, 1h09min52s. Le troisième c'est Anis Chefira en 1h10min29s. Quatrième Sylvain Mouquet. Hein, le Rambolitain, donc 1h11min, et puis on s'apercevra que Fabrice Diru termine 7ème en 1h12min23s, celui qui a gagné 4 fois le semi de Rambouillet. Et puis au niveau des féminines, la première féminine c'est Albert Lucille, elle a couru les 21 km donc 250 en 1h24min28s. Il y a eu 2184 concurrents et concurrentes classés dans ce semi.
Oui, une très très grosse organisation. Ouais. Encore un grand bravo à Hervé et à tous les bénévoles qui ont organisé.
Chapeau à tous ces bénévoles.
Chapeau, parce que c'est une grosse organisation, c'est depuis quelques années. Et puis ces derniers mois, je peux vous dire qu'Hervé, on a des petites contraintes communes, comme je disais tout à l'heure. Il dormait pas toutes les nuits. Hein, toutes les contraintes qui arrivaient, entre les problèmes qu'on a eu de secours communes, malheureusement.
Plus de 280 bénévoles, hein, faut le dire. Hein,
et regrouper tout le monde. C'est pour ça que je vous dis c'est des grosses organisations amateurs. Hein, voilà, c'est un monde amateur, hein, associatif. Ça va être très très compliqué de pouvoir survivre à ce genre d'événements qu'on a. Hein, parce que on va perdre de la matière en ligne, malheureusement, nous. Hein, puis remotiver les gens, retrouver nos partenaires. Parce que on a des partenaires qui déjà c'est compliqué hein, dans le monde associatif d'avoir des partenaires pour vivre. Là, certains partenaires, eux, déjà financièrement, ils vont être dans des difficultés que ils vont déjà penser à eux. Et puis niveau engagement, ce qui est très compréhensible, ils vont limiter leurs engagements auprès des associations. Voilà, ça va être assez compliqué économiquement, sportivement, et puis même niveau bénévole. gérer bénévolat, malheureusement, c'est moyenne d'âge des bénévoles, quand on regarde notre manifestation, c'est entre 67 et 68 ans. Mmh. Les bénévoles, ça fait quelques années qu'on dit qu'on a un manque de bénévoles et gérer notre structure bénévole, notre package bénévole, il est assez âgé et gérer des événements comme ça, ça va un peu, on va en perdre en ligne. Donc les conséquences aussi derrière d'organisation qu'on sera obligé d'annuler.
Oui, on n'en parle jamais assez de ces bénévoles. Par contre, il y a eu aussi les 6 heures au Vélodrome National de Vélizy. On disait que le Vélodrome ne pourrait pas organiser le match de volley du 28 mars. Par contre, il y a pu y avoir les 6 heures. Et notamment, durant cette journée, il y a eu le record du monde de Laetitia Bernard qui était venue participer à notre émission sur le sport féminin il y a un mois. On l'avait aussi annoncé ce record la semaine dernière. Par contre, on n'avait pas précisé que c'était en 40,956 km/h. Donc, chapeau, c'est un record fait. FGT Masters.
Oui, tout à fait. Puis Laetitia, ben, ouais. On la connaît très bien, oui. Puisqu'elle vient faire toutes nos courses à la suite d'Yvelines, compétition féminine, elle est toujours présente, et puis elle fait toujours de très très bonnes places. Très grande personne, niveau travail, niveau implication aussi. Je suis très content qu'elle ait réussi son record. Ça n'a pas été non plus facile pour le mettre en place, son record. C'était des complications avec les fédérations, mais elle est allée au bout, et voilà. Et puis un bon encadrement qu'elle a eu autour, Thierry, puis les gens du Vélodrome qui étaient présents aussi pour lui donner un coup de main, c'était un très beau record. Et voilà, encore une grande félicitation à Laetitia.
Allez, on marque la pub et la pause musicale, et puis on va aller voir Christian Rieux après pour le rugby, et ensuite on reparlera de votre début de saison cycliste. On y va.
Vous vendez, vous louez, DPE Amiante Plomb loue à Carrez. Agenda Diagnostic, leader du marché, diagnostique vos maisons, appartements, immeubles, commerces et bureaux. Profitez de l'expérience du premier réseau de diagnostic immobilier au meilleur prix. Agenda Diagnostic Sud-Yvelines, 01 34 83 80 10. www.agendadiagnostic.fr. Vous vendez, vous louez, DPE Amiante Plomb loue à Carrez. Agenda Diagnostic, leader du marché, diagnostique vos maisons, appartements, immeubles, commerces et bureaux. Profitez de l'expérience du premier réseau de diagnostic immobilier au meilleur prix. Agenda Diagnostic Sud-Yvelines, 01 34 83 80 10. www.agendadiagnostic.fr.
À Rambouillet, 14 bis rue Chasles, SMA Fenêtre, votre spécialiste de la menuiserie extérieure, vous invite à venir découvrir son showroom et toute sa gamme de fenêtres. Store, volet, porte et porte de garage. Sur mesure, en PVC, bois ou aluminium. SMA Fenêtre vous propose des produits adaptés à vos besoins pour isoler, chauffer votre maison tout en réalisant des économies. Alors, pour un devis gratuit, contactez votre spécialiste SMA Fenêtre, 14 bis rue Chasles à Rambouillet, au 01 30 88 62 32.
Vivez votre région. RVE sur radio-rve.com.
To drink away their gloom, he sat me down and so began the story of a charmless man. Educated the expensive way, he knows his Clara from his Beaujolais. I think he'd like to have been Ronnie Craig, but then nature didn't make him that way. Family shares will protect him.
Vivez le sport dans votre région avec RVE.
Voilà, puis il y a une bonne nouvelle, tiens, notre webmaster, il est rentré de vacances, donc cette émission, vous pourrez la réécouter en podcast, et puis vous pourrez réécouter aussi très rapidement l'émission de la semaine dernière, notre émission anniversaire de 32 ans, le Tribune Foot aussi du 1er mars, et puis, naturellement, en attendant, vous pouvez écouter toutes les émissions depuis le début de l'année de 2020, qui sont sur notre site, hein, celles notamment jusqu'au 23 février, et puis même celles de 2019. Alors, on a notre ami Christian Rieux, qui lui est à Toulouse, hein, on n'avait pas pu l'avoir pendant le mondial de rugby. Christian, bonjour.
Oui, bonjour Philippe.
Bon, alors Christian,
bonjour à tous.
Ouais, on s'apprêtait à tirer le bilan du tournoi destination, et puis bah,
oui.
Corona virus oblige, malheureusement, il faudra attendre donc fin octobre, début novembre, pour tirer un bilan définitif de ce tournoi 2020.
Oui, tout à fait. Bon, il faut marquer une pause, hein, obligatoirement, parce qu'il y a des choses plus importantes que le sport. Mm-hmm. Et bon, actuellement, nous sommes une mauvaise passe, on pourrait dire.
Oui. Alors, Christian, on va quand même rappeler que c'est pas la première fois que le tournoi s'achèvera en automne. Hein. On se rappelle qu'en 2001, avec l'épisodie de Fièvre Afteuse, il avait fallu attendre le mois d'octobre pour non seulement connaître le classement définitif du tournoi, mais aussi le vainqueur, qui était donc, en l'occurrence, à l'époque, l'équipe d'Angleterre. Voilà. Alors, cette équipe de France, malgré tout, pour tirer un premier bilan, on va rappeler qu'elle a battu l'Angleterre 24 à 17. Hein. Elle a gagné le combat physique contre ses Anglais. Ensuite, elle a battu, même si tout n'a pas été parfait, une bonne équipe italienne, 35 à 22, victoire grâce à la solidarité et l'abnégation enfin au Pays de Galles 27 à 23, et malheureusement une équipe de France qui est retombée dans ses travers la semaine dernière, battue en Écosse 28 à 17. C'est quand même un bilan qui est positif, Christian.
Oui, 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 bilan très positif, et puis ensuite il faut rappeler les objectifs, hein. On a rebâti là un staff et une équipe de France à partir des performances des Bleuets dans l'objectif de la Coupe du Monde, donc pour 2023. Mais il y a eu un emballement, je dirais, technique et médiatique qui ont fait que nous sommes passés du néant à champion du monde avant d'avoir joué.
Ben oui, non, mais c'est ça.
Bon, c'est toujours normal. Comme ça en France, où on est nul, où on est les meilleurs. On n'arrive pas à relativiser les choses, à se situer comme il faudrait l'être.
En tout cas, c'est une jeune génération qui est prometteuse, et puis qui a, je dirais, qui a encore une grosse marge de manœuvre. Il y a quand même un effet Galtier-Ibanez au niveau de cette équipe de France.
Oui, alors, Philippe, on peut s'interroger, écoutez bien. Si l'on considère le passé de Galtier, de Ibanez, de... un trésor des trois quarts. On s'aperçoit qu'ils ont été virés de tous les clubs pour insuffisance de performance.
Ah
ben oui. Bon, donc on peut se poser la question de la validité, de la capacité et de la performance du staff.
Bon.
Et ça s'explique, il y a des explications.
Oui.
Alors, il faut voir que pour arriver à un projet de jeu très performant, il faut une adhésion entre tous les membres, entre les joueurs, le staff, l'environnement, des dirigeants, etc. Alors, apparemment, il faut voir aussi qu'il y a eu un changement de méthode dans l'entraînement. Il faut voir que les joueurs se sont emparés plus ou moins du projet rugby France et qu'ils ont adhéré complètement à cette nouvelle donne d'entraînement très poussée à base de résistance, de temps de jeu, etc. Donc il y a eu une osmose entre les dirigeants et les joueurs. Et l'environnement technique et des dirigeants. Oui. Voilà.
Donc c'est ça la grande force de cette équipe de France, Christian. Alors, est-ce qu'il peut... Bon, on attendra, donc je l'ai dit, fin octobre, début novembre, hein, pour jouer le match contre l'Irlande, hein, puisqu'il y aura aussi d'autres matchs en retard. Il y aura Irlande-Italie, il y aura Galles-Écosse et Italie-Angleterre. Mais la France peut gagner malgré tout le tournoi.
Oui, bien sûr, on a des chances de gagner. Bon, parce que là, il y a eu un couac. Moi, je dirais, il y a eu un couac qui est dû... Bon, je prends les commentaires de Yachvili. Mm-hmm. Bon, Yachvili, qui a été un bon joueur, un peu tricheur, sur les bordures de mêlée. Bon, c'est très bien son fonctionnement. Qu'est-ce qu'il a commenté ? Il a dit du caractère, du caractère, du caractère. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça signifie, du caractère ? C'est être caractériel. Parce que connaissant les joueurs, bon, on sait très bien que c'est être acerbe, agressif, et je dirais même inadapté. Mm-hmm. Et l'équipe de France, qu'est-ce qu'elle a été ? Contre l'Écosse, inadaptée. Trop de fautes, trop de fébrilité, trop de manque pour pouvoir s'imposer. Et c'est pas la faute de l'arbitre, parce que quand elles y étaient, et ce n'est pas la faute de manque de volonté, d'engagement. C'est une faute, ce sont des fautes de maîtrise, de contrôle de soi-même et du jeu.
Ouais, elle est retombée dans son travers.
On pourrait épiloguer, hein, mais enfin, bon...
Très bien. Alors Christian, je vais quand même donner le classement actuel de ce tournoi. C'est l'Angleterre qui pour l'instant est en tête avec 13 points, mais un goal average supérieur de plus 15. Devant la France, justement, 13 points, mais plus 13. Troisième l'Écosse, 10 points. Quatrième l'Irlande, 9 points. Cinquième le Pays de Galles, 7 points. Et sixième l'Italie, 0 points, qui part de la cure de bois. Comment ?
Ils peuvent tous gagner le tournoi, les quatre premiers, là.
Oui, sauf le Pays de Galles et puis l'Italie, maintenant.
Oui.
Donc ça nous laisse plein de suspense, quoi.
Ben oui, les jeux ne sont pas faits, mais moi je me pose des questions sur le calendrier. Ah, oui. Il va falloir jouer 15 rencontres, il y a le championnat de France, il y a la Coupe d'Europe, en très peu de temps.
Ouais. Ben, je crois que c'est le problème dans tous les sports, il va falloir gérer des calendriers, essayer d'aller au bout des championnats. Si tout reprend, on va être très occupé, Christian, malgré tout, mois de mai, au mois de juin et même durant l'automne. Hein. Ouf.
Oui, parce que tous les sports sont concernés, et les grands tournois, bon, Roland-Garros...
Compris aussi, Roland-Garros. Hein,
c'est pas évident, hein.
Non.
Qu'il puisse avoir lieu, hein.
Très bien, bah, Christian, merci en tout cas. Profitez bien de Toulouse, hein, et puis à très bientôt, et merci d'être intervenu dans ces conditions un peu particulières pour le sport actuellement. Hein, okay.
C'était vraiment particulier, d'accord. Ouais.
Allez, à très bientôt,
Philippe,
merci Christian.
Merci, à bientôt. Hein.
Merci, oui, voilà. Très brièvement, Olivier, l'équipe de France de rugby qui va mieux, c'est une bonne nouvelle.
Une très très bonne nouvelle.
Quoi qu'il arrive, il y a quand même un progrès qui est quand même assez net.
C'est énorme, on a vu une structure complètement différente là depuis que Galtier a repris les rênes. Mm-hmm. On voit l'ensemble, hein. il y a les rugbyman, mais il y a tout l'ensemble, le staff qui est mis autour. On voit c'est un ensemble, une équipe qui est vraiment construite, hein, chercher des entraîneurs anglais pour certaines lignes. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui a été mis en place, une mise en question de certains clubs aussi, hein, parce qu'on s'est aperçu aussi pourquoi l'équipe de France était devenue si bas. C'est parce qu'il y a beaucoup de clubs qui délaissaient, hein, préféraient leur championnat en embauchant beaucoup d'étrangers et voilà, en donnant pas la chance aux jeunes Français. Donc les clubs se sont assez investis et donc un ensemble Galtier qui a réussi justement à taper la porte de tous les clubs et leur expliquer son projet. Et on voit le projet, ça fonctionne.
Mmh. Ouais, c'est plutôt bon signe pour la suite, pour l'avenir, surtout comme le disait Christian, pour 2023, quoi. C'est l'objectif. Hein.
2023, si on continue sur cette dynamique, je pense qu'en 2023, l'équipe de France aura retrouvé son rang de trois premières nations mondiales. Donc, je pense que c'est très très bien et ils apprennent, même sur la défaite, malheureusement, la dernière défaite, ils ont appris, ils ont plein de choses.
Ouais, on a eu tendance parfois un peu à s'emballer. C'est vrai qu'on est passé pratiquement d'un extrême à l'autre, hein, depuis la fin de la Coupe du Monde 2011 à maintenant. L'équipe de France nous a tellement déçus que, on se croyait trop bon, on s'est dit, ils vont faire le grand chelem, ils vont déjouer tous les pronostics.
Oui, mais ils ont, péché par des erreurs de jeunesse, hein. Mm-hmm. Faut dire l'âge moyen de, énormément diminué aussi.
Ouais,
hein.
Ouais.
Donc des erreurs de jeunesse, ils ont géré, puis circonstances, suite à des erreurs de jeunesse d'être exclus, carton jaune, carton rouge, ce qui leur a fait basculer le match aussi, hein, faut pas se leurrer, avec un joueur de plus, je pense qu'on les a raccrochés, on n'était pas loin même de gagner. Ce sont deux ou trois erreurs de jeunesse qui a fait que ça fait basculer le match, parce qu'il y a un manque d'effectifs. Mais sinon ils étaient présents aussi, hein, des bonnes choses qui étaient présentes. Ils font des fautes encore. Mm-hmm. Après, j'irai quand on a un club, quoi, j'irai une organisation qui a à peine 5 mois. C'est un peu logique qu'on soit un peu... on a un manque de maturité sur certaines disciplines.
Allez, Olivier, on parle maintenant de votre début de saison. Vous aimez le sport en général, comme tout le monde. Il y aura le 10 mai, donc cette, la suite Yvelines ou le tour en Bouillet Territoire. Pourquoi deux étapes?
Pourquoi une seule journée?
C'était un début de la fin?
Non, j'espère pas, mais c'est très compliqué. Comme je disais, niveau organisation hors stade, ça devient très compliqué d'organiser, d'avoir des autorisations. On en est dans une période...
Ça n'a rien à voir avec les problèmes de sanitaire actuels qu'on rencontre dans notre pays.
Non, ça n'a rien à voir, c'était déjà avant. Ouais, ouais. C'était, on est une année d'élection.
Oui, qu'est-ce que vous en attendez, tiens, justement, ce jour de vote aujourd'hui? Bon, quelle que soit la nouvelle équipe en place qui arrive, on espère que le sport sera important.
Oui, je pense, j'ai vu les différentes équipes, il n'y a aucun souci de ce côté, l'engagement sera présent. Mais je dirais c'est la première année depuis que je suis président, ça fait trois élections qu'on voit, c'est la première année d'année d'élection qui est très très compliquée. Niveau investissement des communes, parce qu'ils ne savent pas déjà savoir eux, de leur côté, même si elles s'engager niveau commune, les équipes qui sont actuelles. Niveau financement, parce que les financements sont repoussés. C'est une année très 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 compliquée niveau organisation. Donc c'était déjà dès le début, c'était une année très compliquée pour nous. Donc pour ça qu'on s'était un peu... On avait aussi d'autres objectifs d'organisation, de grosses organisations.
Oui.
Et donc on espère qu'ils vont avoir lieu, puisque nos deux grosses manifestations, la première va commencer au fin juin avec le championnat d'Île-de-France des jeunes, c'est-à-dire des minimes, cadets et juniors.
Ah, ça c'est bien. Bullion.
Sur Bullion et la salle des Bornes.
D'accord.
Bullion, la salle des Bornes. Mm-hmm. Donc alors on leur donnait un parcours assez costaud.
Ça c'est fin juin, on connaît la date, non?
C'est le 28 juin.
Ouais, d'accord.
Donc ça, j'espère d'ici là qu'on aura pu reprendre. Donc ça sera.
C'est le week-end du départ du Tour de France en principe.
Voilà, mais voilà. Bon, ça devrait bien. Mm-hmm. J'espère que ça devrait se faire. Et la grosse organisation qu'on va avoir, c'est la finale de la Coupe de France féminine,
oui.
National 1, National 2 et professionnel. Donc, qui aura lieu le 6 septembre avec un départ de Rambouillet et un circuit sur Bullion, la Salle des Bords de Clairefontaine.
D'accord, ok.
Donc là, c'est vraiment une grosse organisation, ouais. Parce que là, c'est l'élite français avec les trois clubs pro qui existent, hein, puisqu'en France, on a trois clubs professionnels qui sont présents. Ça fait 130 compétitrices. Et de haut niveau, de très haut niveau, hein, puisque ce sont les courses. Il y a que 6 labels en France, hein, niveau élite nationale. Et donc on a eu cette chance d'avoir ce label et d'être autorisé de l'organiser, puisque bon, c'est suite aussi aux différentes manifestations qu'on organise dans la région, hein, que ce soit de la Sud-Yvelines, aux participations au Tour de France qu'on a organisé, puis Paris-Nice. Ouais. Donc on a démontré que Rambouillet était capable, et le comité départemental des Yvelines était capable d'organiser cette grande manifestation, et avec un soutien aussi du département, heureusement, quel département s'est investi depuis maintenant plus de 10 ans, avec le départ de Paris-Nice, les accords avec le Tour de France, donc on a un gros soutien de ce côté-là.
Heureusement d'ailleurs, hein, qu'on est dans un département comme les Yvelines, parce que ça aide pour le vélo, quoi. Ça serait la Seine-et-Marne ou l'Essonne, ce serait peut-être un peu plus compliqué.
Bah, tout à fait, parce qu'on a une équipe dirigeante au département qui est vraiment investie, hein, président Bédier, ainsi que nos élus départementaux, qui étaient Monsieur Bénizet à l'époque et maintenant Xavier Caris,
oui.
Qui nous suivent derrière énormément sur le sport cycliste, hein, dans le département. Et puis on le voit, puis on a vraiment un site magnifique, puisqu'on en parlait tout à l'heure à Paris-Nice, hein, vraiment un site magnifique d'exploitation de sport qui est un terrain idéal.
Et quoi qu'il arrive, l'été qu'on a vécu, ça restera un été fabuleux entre l'étape du Tour de France et le Paris-Brest-Paris, ça restera un été fabuleux.
Paris, les Kidéo, les Kirando, c'était magnifique, c'était une super organisation, une super logistique qui a été faite. Encore un grand merci à Gaël de ce côté-là de nous avoir procuré ce mouvement. Et je me dis, cette année, malheureusement, avec tous les éléments qu'on a, vu même les entreprises, à mon avis, si on a du chômage partiel, je pense que l'été va être complètement bouleversé. Je pense qu'on aura un été juillet-août plus actif que les derniers étés nous avons eu. Sauf à Rambouillet, mais au moins niveau sportif, je pense que tout va se reporter, puisque malheureusement, il y a beaucoup de gens qui seront obligés d'aller travailler, donc beaucoup plus de présence.
Alors, Olivier, ça va se dérouler où et comment? Donc, on l'a dit en deux étapes, il y aura un contre-la-montre le matin, le prologue, ça va se passer comment ce tour Rambouillet Territoire? C'est le 10 mai. Hein.
C'est le 10 mai, donc ça sera le dimanche matin, donc un contre-la-montre individuel, hein, de 6,5 km, sur Poignée et direction Gazeran.
D'accord.
Donc un contre-la-montre que nous avons déjà effectué il y a 7-8 ans. Donc difficile avec la montée du faux plat direction Gazeran. Et l'après-midi, donc on va prendre le circuit de la Gentleman.
D'accord.
Donc à faire 90 km l'après-midi pour les premières et deuxièmes catégories, troisième catégorie, et un peu moins, c'est-à-dire 70 km pour les quatrième, cinquième et sixième catégorie. Mmh. Est-ce que bon, le fait de le faire que sur deux étapes, l'après-midi, on pourra effectuer une épreuve minime cadet sur cette course-là.
D'accord, alors qu'on se rassure, ça reviendra peut-être en quatre demi-étapes, hein. C'est parce que cette année, on cible sur d'autres grands objectifs qui arrivent pour votre section.
Voilà, tout à fait. Voilà. Après, bon, tout est remis en cause, hein, comme je disais tout à l'heure. Ouais. C'est, voilà, il faudra qu'on fasse un point des conséquences de l'événement actuel. Comme je dis, ça ne sera pas facile hein, pour beaucoup d'associations de rebondir, hein, de ressortir niveau main-d'œuvre, niveau bénévole, niveau financement, parce que voilà, les financements, ça va être très compliqué. Hein. Je dirais, c'est un nerf de la guerre aussi. Hein. Certaines associations, il nous faut des financements. Nous, quand il faut qu'on paye 800 euros à une ambulance pour faire une organisation, voilà, c'est pas, voilà, il faut les avoir, les 800 euros. Donc, on a la chance d'avoir des partenaires, d'avoir des territoires qui nous aident. Et voilà, si on les a pas l'année prochaine, voilà, c'est très compromis pour organiser les courses. Hein.
Ça se passe comment quand on annule comme ça, contre un forcé, toutes ces manifestations? Il y a des systèmes d'assurance, des systèmes de remboursement pour les clubs?
Alors, vous avez certaines assurances qui peuvent bien vous rembourser. Après, ouais. Quand vous êtes des boucs...
C'est de la force majeure, là, par exemple.
Des forces majeures, mais bon, j'irai demander à l'associatif. Le plus bas, j'irai, ils sont un peu délaissés de ce côté-là. On vous dit, bah, vous n'avez qu'à prendre une assurance. Les grandes têtes nous disent, vous n'avez qu'à prendre une assurance. Oui, il faut savoir qu'une assurance d'annulation, c'est de 4500 euros pour une manifestation. Donc voilà, vous pouvez les prendre, et puis vous êtes assuré, mais bon, voilà, après les circonstances, bon, voilà. Et ça va quand vous avez fait des grosses organisations, mais sinon des petites organisations, ben vous avez pour votre pomme, hein, tous les frais engagés, c'est un peu perdu. Certaines assurances qui veulent bien vous rembourser les frais d'assurance, mais bon, tous les frais que vous avez engagés, ben des réservations, ben vous avez payé des réservations, ben voilà, c'est perdu pour vous. Hein. Donc c'est pas facile. Et ça c'est bon. Après on admet, hein, nous ça nous est déjà arrivé sur une course qu'on avait annulée, bon, et là, le cyclocross démancé il y a 4 ans. Suite aux attentats, c'est les pertes sèches hein, que voilà qu'il faut, ben, faut prendre en compte. Hein, c'est, voilà, c'est compliqué, c'est très compliqué. Comme on dit, plus on est petit, plus on est difficile dans le retour.
Bon, et les autres épreuves, donc la gentleman, ça, elle est maintenue, il n'y a pas de problème.
Donc les autres épreuves, donc le 28, donc comme je disais, le 28 juin, le championnat d'Île-de-France minime cadet junior à Bullion. Le 5 juillet, la course des docks matériaux au Péray-en-Yvelines.
D'accord.
Dimanche matin.
Ça, c'est un classique, c'est une tradition.
Tradition. Mm-hmm. Ensuite, donc, on passera le 6 septembre, donc, avec la finale de la Coupe de France féminine, National 1, National 2.
Ouais. Donc là, c'est une grosse rentrée, hein. Ça, c'est énorme.
Hein. Oui, voilà, ça va être la grosse entrée. Mm-hmm. Et ensuite, on finira, donc, le 26 septembre par la gentleman de Poigny-la-Forêt. Et ensuite, on verra pour les calendriers de cyclocross, on verra si on, pareil, toujours avec les nouvelles équipes d'élus qui seront en place, bien sûr, ça va aussi être des discussions de mise en place, savoir si on peut continuer sur certaines organisations.
Oui, vous avez parlé d'Hervé Joly, du semi-marathon. Il y a des points communs entre tous ceux qu'on reçoit à ce micro chaque année au niveau de la course à pied et puis vous pour le vélo. Vous avez toujours les mêmes difficultés à organiser, des difficultés administratives. Et puis, on a toujours peur du grain de sable qu'il faille qu'on soit obligé d'annuler l'épreuve. Hein. Ça, c'est une hantise permanente.
C'est une hantise permanente. Hein, quand on a un investissement, comme dit Hervé, c'est 8 mois d'investissement, c'est des heures passées au carré, parce qu'on a un métier à côté, hein, on est associatif, on est bénévole, hein, c'est des heures carrées au passé, c'est des nuits, des réunions passées, et que ben, plus l'événement se rapproche, vu que les décisions, plus les décisions administratives de ce côté-là, quand on a l'autorisation de la préfecture 3 jours avant l'organisation, qui même 3 jours avant l'organisation peuvent vous annuler, c'est une pression énorme pour le monde associatif, c'est vraiment c'est un stress énorme hein, jusqu'au vendredi soir ou jusqu'au samedi soir, ben, vous savez pas si vous pouvez organiser. C'est usant, c'est très très usant. Mmh. Et que ça soit Hervé ou moi, donc dans de différentes organisations, on se retrouve une fois qu'on a géré l'autorisation, déjà on a un gros point qui est passé.
Voilà, c'est pour ça qu'on vous reçoit tous les dimanches matin pour valoriser vos différentes actions. Olivier, allez, la deuxième page de pub et la deuxième pause musicale.
Artisan, peintre, décorateur, Sébastien Mohard pour vos travaux de décoration, peinture intérieure, traitement des sols, tapisserie, vitrerie et ravalement peinture. Votre artisan peintre décorateur Sébastien Mohard, c'est plus de 15 ans d'expérience. Devis gratuit et renseignements au 01 34 85 98 14. Artisan peintre décorateur Sébastien Mohard, 13 bis rue de la Libération à Sonchamp.
Le meilleur de la Bretagne est à la crêperie Tibilig. Galettes, crêpes, salades et glaces à base de délicieux produits frais. La crêperie Tibilig vous accueille du mardi au samedi avec sa carte et ses menus. Venez passer un moment agréable et détendu autour d'un bon repas à la crêperie Tibilig. 13 place Félix Faure à Rambouillet. Réservation 01 30 46 23 11.
Takes our train, summer breeze and daylight. Only love she sees, she controls our love. Love sails to a new light. Promised you a miracle. Belief is our beauty thing. Promises, promises. Golden days break wondering. Only oh, what she sees. He controls my love. Like house of gold. Everything is possible. Never seems. Everything is possible. Oh. I promised you a miracle. Promises, promises. As golden days break wondering, reflects on them a while. Love speaks so quietly, slipping back on golden tides, breathing with screen memories. Is our beauty thing. Promises, promises. As golden days break wondering.
Et le sport dans votre région avec RVE.
Olivier, donc la saison est partie, on peut quand même venir vous rejoindre, hein. Le bel été sportif qu'on a vécu en matière de vélo l'été dernier a peut-être donné des idées, vous avez eu des nouvelles recrues ?
Beaucoup dans les jeunes, on a les jeunes qui fonctionnent bien à l'école de vélo, parce que chez les adultes, ça diminue hein, quand même pas mal, hein. J'irais comme pas mal de sports.
Bah, ça prend du temps, ça coûte cher.
Voilà, et puis bon voilà, maintenant c'est plus un sport, j'irais comme tout pas mal de sports, c'est de la consommation maintenant, hein. On voit d'athlètes, ils consomment. Ils sont moins là pour aider les associations. Mais les jeunes, on a voilà pas mal d'espoir dans les jeunes avec l'école de vélo. Ça tourne bien. On a toujours une dizaine, quinzaine de jeunes.
Au total, vous êtes combien licenciés ?
On est en tout, on est 31 licenciés.
Oui, d'accord.
31 licenciés, bien sûr, ça diminue hein, malheureusement dans toutes les activités. Hein. C'est un peu... puis voilà, on a du mal à conserver les jeunes parce que... Je dirais le tort qu'on a aussi, les parents, ils veulent faire multi-activités aux jeunes. Donc, ben, on leur fait faire quatre activités quand ils sont jeunes, mais ils en font quatre pas bien, puis ils n'en gardent aucune.
Oui, puis le vélo, ça prend du temps. L'entraînement, c'est 3 heures, 4 heures sur la route. Hein.
Ça prend du temps.
Plusieurs fois par semaine, puis ça coûte cher aussi.
Il faut aimer. Oui, on ne peut pas aimer aussi, quand on fait quatre activités différentes. Bien sûr. Ouais. Donc, voilà, et ça, c'est le tort des parents actuellement. On veut leur faire un maximum de choses. Bon, c'est un tort parce qu'ils font tout, puis d'un seul coup, ils lâchent tout. Ils lâchent tout d'un seul coup. C'est qu'à l'âge de 14-15 ans, ils ont tout lâché parce qu'ils n'ont eu aucune passion dans l'un des quatre activités qu'on leur a fait faire. Donc ça, c'est une grosse erreur de gérer mon monde d'éducation. Mais voilà, donc sinon, c'est les jeunes où on arrive à accrocher. Voilà, c'est vrai que le pareil... de France et Paris-Nice fait beaucoup d'appels.
Et prendre la route, ça fait peut-être peur aussi. On le dit à chaque fois qu'on se voit, hein, qu'on fait ces émissions, faut être sage, il faut bien respecter le code de la route.
Bah, tout à fait.
Hein, des deux côtés. Hein.
Des deux côtés. Mmh. Et on le voit, la population augmente niveau sur route, hein, donc ça devient compliqué. C'est pour ça qu'avec la Fédération française, on a lancé Roulons Ensemble, et puis le département aussi, de rapprendre un peu le code de la route vraiment sur le terrain. Pour les jeunes. Donc, ce sont des activités qu'on lance cette année, qu'on va pouvoir proposer aux différentes mairies, de pouvoir le faire aux jeunes de l'âge de 7 ans. On a découvert ça, malheureusement, l'an dernier, c'est qu'on avait 30% de jeunes qui savaient pas faire de vélo du tout. Hein. C'était catastrophique, là, qu'on a vu ça au mois de juin l'an dernier. Mm-hmm. Donc, il y a quelque chose qui se relance de ce côté-là pour apprendre à rouler et puis le code de la route.
Oui, puis c'est l'école de la vie aussi, puis le vélo va devenir peut-être de plus en plus important dans notre mode de locomotion de la vie de tous les jours. Ça peut être aussi des choses qui rentrent en valeur.
Voilà, c'est ça qui est déjà bien pris en compte hein, quand même pour le côté écologique. On voit pas mal de jeunes qui vont à l'école en vélo. Bon, moi, ce que je regrette, c'est qu'ils aient pas de gilet jaune. Hein. Ça m'arrive des fois le matin d'arriver même sur Rambouillet à 8h du matin, l'hiver quand il fait nuit, d'un seul coup avoir un vélo qui nous déboule sans gilet, ça me perturbe. En tant qu'éducateur, c'est très perturbant de voir ça. Mais c'est très bien d'un côté qu'ils viennent à l'école en vélo. Voilà, il y a des choses à côté qu'il faut mettre en place, des gilets jaunes obligatoires. Pour moi, je le précise, hein, pour les jeunes, gilets jaunes obligatoires. Même nous, nos compétiteurs, minimes cadets, on leur impose lors des entraînements. Je pense qu'il faut faire vraiment un très 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 gros effort là-dessus. C'est leur mettre un gilet jaune obligatoire. De ce côté-là, c'est la seule protection qu'on a au moins visible qu'on puisse mettre en place et moins onéreuse. On l'impose dans différentes choses. Là, je pense qu'il faut vraiment l'imposer à tous les jeunes qui vont au lycée tous les matins.
Très bien. Merci Olivier d'être venu, donc d'avoir répondu, comme d'habitude, à notre invitation dans des circonstances un peu particulières. Le monde du sport, il va gagner, il va battre le coronavirus. Hein. Il va finir par l'emporter. Hein. Il n'y a pas de problème.
On est très solidaire en France. On va s'en sortir. On a eu, je dirais, on va dire comme les anciens, on a plusieurs guerres, mais on s'en sortira.
Puis nous, on sera là dans d'autres circonstances. On va s'adapter, mais on sera là à l'antenne tous les dimanches matin. Voilà, on va vaincre ce virus. Merci à Guillaume d'avoir été une nouvelle fois très brillamment aux manettes ce matin. Et puis rendez-vous la semaine prochaine, le dimanche 22 mars, 10h-11h. Restez avec nous fidèles hein, tout au long de la semaine et puis à travers nos grands podcasts. Bon dimanche à tous et à tous. Merci.
Retrouvez toute l'actualité sportive locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport avec Philippe Carnu. Il est 11h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. Ça y est, c'est parti pour les municipales. Des millions de Français sont attendus aux urnes aujourd'hui. Mais combien vont se déplacer ? Eh bien, c'est une très bonne question. On en saura plus en fin de journée, puisque c'est dans un contexte assez particulier que le gouvernement a décidé de maintenir ce vote. La France est passée au stade 3 de l'épidémie de coronavirus. Désormais, le virus circule sur tout le territoire. Et c'est en Nouvelle-Calédonie que le coup d'envoi des élections a été donné, il y a déjà plusieurs heures maintenant. Pour le moment, l'île est épargnée par ce coronavirus. Mais chez nous, dans l'Hexagone, si vous êtes prêts à aller voter, pensez à bien faire attention. Des masques seront disponibles dans certaines mairies pour les personnes présentant des symptômes. Laissez un mètre au minimum entre vous et les autres. Privilégiez des horaires un peu moins fréquents.